L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et en rediffusion à 18h. Vous le savez, c'est une émission très variée qui n'a peur d'aucun sujet, même pas l'Antiquité romaine. Vous le savez, l'an dernier, on en a fait une série avec une finistérienne docteur en histoire antique, Pauline Huon, qui nous a détaillé la notion du corps chez les Romains. Pauline Huon reviendra nous parler du banquet et de la commensalité dans les rites de passage antiques, ce sera en janvier. Aujourd'hui, c'est une autre finistérienne doctorante en histoire antique qui vient nous parler religion romaine. Je vous l'ai dit, on n'a peur de rien. Bonjour Axelle Lamour.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
C'est un plaisir. Vous êtes donc enseignante à l'UBO, vous consacrez votre thèse à ces cultes qu'on disait gentilis. Alors on va définir tout ça. Pour commencer, pour poser le contexte général, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors la période est longue, les Romains c'est long, mais les religions romaines, qu'est-ce que ça consistait en quoi ?
Oui, alors déjà, comme vous le dites, on parle des religions romaines, chose qu'avant on parlait plutôt de la religion romaine. En fait, en général, on a tendance de parler de la religion au singulier, chose que ici, en religion romaine, alors selon l'endroit où on se trouve, la famille ou le statut social, on ne va pas avoir obligatoirement le même panthéon, ni les mêmes fêtes, ni le même calendrier. Et donc, la religion romaine n'est pas unique sur l'ensemble du territoire de l'Empire romain.
Bon, déjà, c'est pas monothéiste, c'est non, plusieurs dieux.
Non, pas du tout, oui, c'est ça. Et comme vous le dites, c'est plusieurs dieux, mais cette religion aura aussi tendance à évoluer selon les régimes politiques. Donc, on ne va pas avoir la même religion romaine sous la République que sous l'Empire.
Est-ce que vous travaillez sur quelle période, en fait ?
Je travaille sur la période républicaine.
Donc, c'est avant... Enfin, c'est avant Jésus-Christ, c'est sûr, mais c'est quoi,
c'est ça va de quand à quand ? Alors, concrètement, on va dire que c'est du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc en moins 509, jusqu'à l'avènement de l'Empire romain avec Auguste en moins 14.
Donc, vous ne vous intéresserez pas aux religions d'Empire, enfin, ou plus tard.
Oui, ou alors, oui, plus tard, on va dire ça.
Oui, parce que donc, ça fait déjà une bonne période.
Oui.
Et donc, on ne sait pas jusqu'à. J'imagine qu'on ne sait pas exactement à quand remonte ce polythéisme, mais les Étrusques, sans doute.
Ah oui, c'est ça, complètement. Puis ouais. Après, dans les sources anciennes, on va trouver des origines mythologiques dans la fondation déjà de la ville, mais aussi de la religion. Donc là, on va remonter aux rois mythologiques de la ville de Rome. Donc la religion romaine, définie par le roi Numa Pompilius. Donc on remonte à des temps très très anciens et mythologiques. Donc à la fois, on n'est pas non plus tout à fait sûr de ce que nous disent les sources, mais en tout cas, on sait qu'il y a une origine qui revient de là.
Donc vous parliez d'évolution des religions romaines pendant toute cette période. Qu'est-ce que c'était ces évolutions en gros ?
Alors les évolutions, ça dépend à la fois des faits sociétaux, donc ça on va le voir avec les cultes gentilis par la suite, mais ça dépend aussi de l'intégration de certains cultes étrangers au panthéon romain. Donc on sait que durant la période républicaine, certains dieux, certaines divinités de d'autres zones géographiques de la Méditerranée vont être intégrées au panthéon romain, comme par exemple Esculape, le dieu de la médecine. Donc il n'était pas romain à l'origine, mais on l'a intégré. Donc les cultes étrangers prennent une part tout à fait considérable au sein de la religion romaine au fur et à mesure du temps.
Mais d'une manière générale, c'est quand même majoritairement les religions grecques qui ont influencé les religions romaines ou pas ? On a l'impression quoi, que les dieux grecs se sont transformés en dieux romains.
Oui, bien sûr, c'est l'impression qui ressort de ce panthéon. Mais comment dire ? Les religions romaines, c'est une adaptation de différentes religions c'est un creuset en fait. On va avoir des origines étrusques pour certaines choses, des origines grecques. Parfois, on va même avoir des origines égyptiennes à certains cultes. Donc, par exemple, le culte d'Isis va être intégré plus tard au panthéon romain. Donc, voilà, c'est une sorte de melting pot de religions concentré.
Donc ça, c'est la période républicaine et, oui. Et ça va changer, enfin, juste pour nous donner une idée, ça va beaucoup changer sous l'Empire ou
pas ? Alors, les cultes principaux vont rester, le calendrier, comment dire, les fêtes principales seront toujours là. Mais ce qui va changer avec l'Empire, en fait, c'est la mise en place du culte impérial, déjà enclenché en partie par Jules César après son assassinat par son fils adoptif Octave. Et c'est quand Octave deviendra Auguste qu'il va mettre en place une sorte de culte impérial indirect, donc on va rendre hommage à son génie au sein des quartiers par exemple, et plus tard après sa mort ce sera le culte envers la personne d'Auguste, dit oui à Augusti. Donc voilà.
Alors en attendant, sous l'Empire, on comprend que ces religions, c'était, on faisait son marché en fait, c'est ça, chacun prenait un peu les dieux, déesses qui l'intéressaient.
Alors oui et non, c'est-à-dire que déjà de base, on va avoir le calendrier romain qui va définir les jours fastes et les journées fastes, et donc qui vont apporter leur lot de fêtes à célébrer par toute la communauté civique de l'Empire romain.
Ah oui, il y a quand même une unité. Alors.
Oui, il y a une unité. Et après, chaque personne, chaque famille, chaque association, chaque métier, corps de métier, vont avoir leur dieu à honorer chacun de leur côté. Donc là, on parle plutôt de religion privée.
C'est ça qu'on appelle les cultes gentilices.
Alors, en partie, les cultes gentilices font partie des religions privées. Et en fait, ce sont les cultes des gentes, donc des clans, des familles, de la famille au sens large, en fait.
Alors, c'est là qu'on en arrive à c'est le cœur de votre thèse.
Oui.
Vous disiez famille au sens large. Il y avait une période particulière pour ces cultes gentilices ?
Alors, oui, toute la période républicaine, sachant qu'on pense qu'il y a qu'ils étaient plus courants dans les premiers siècles de la République, au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 4e siècle aussi. 3e siècle encore, et après, au fur et à mesure, on va voir qu'ils vont un petit peu s'étioler. Enfin, il y en aura de moins en moins du fait de, enfin, de à cause de plusieurs choses. Je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure.
Bien sûr, ouais.
Mais la période faste, oui, c'est la République.
Et donc, chaque gens définit son panthéon, ou est-ce qu'il y avait quand même des grandes constantes d'une famille à l'autre? Comment ça se passait?
Alors, chaque gens aura sa divinité à honorer. Selon certaines familles vont trouver leur divinité à honorer dans leurs origines mythologiques, en fait, ce qui a été largement repris par les sources. Et après, effectivement, ça va durer. En fait, c'est une sorte de... À telle période de l'histoire de la République, une famille va choisir une divinité et ça va rester, en fait. C'est une sorte de coutume qui va rester jusqu'à la disparition de la famille ou pas.
Donc, il y a une divinité phare et puis peut-être d'autres divinités en plus.
Alors, surtout, dans les cultes gentilices, ça sera une divinité phare. Après, les autres divinités, ça sera plutôt des divinités domestiques. Et là, on sort des cultes gentilices.
Et cette divinité est honorée comment en général, quoi ? Enfin là, on reste dans la généralité du culte gentiliste.
Alors, comment ? Je ne peux pas le dire pour toutes les divinités, mais dans certains cas, on sait qu'il y avait des sacrifices réalisés envers la divinité choisie, ou en tout cas envers la divinité tutélaire de la famille. Et on sait qu'ils ont été célébrés d'une certaine façon selon le rite grec. Donc le rite grec chez les Romains, c'est tête couverte, pardon. Et après, ça reste encore très flou du fait qu'il soit très ancien. Donc c'est pas toujours très clair. On sait qu'il y a une famille qui égorgeait un cochon pour leur culte gentiliste, mais on ne sait pas à quelle divinité. Mais on sait qu'ils égorgent un cochon.
Ça nous amène à la question des sources.
Oui.
Quelles sont-elles, vos sources ?
Alors, les sources, comme c'est un sujet à la fois ancien et large, je traite de toutes les sources. Donc, les sources littéraires, les sources iconographiques, les sources épigraphiques, donc l'étude des inscriptions, et les sources archéologiques. Mes sources principales sont quand même les sources littéraires. Après,
il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur les religions, et notamment Gentilis.
Oui, tout à fait. On peut avoir Festus, qui était un grammairien, le très connu Tite Live, par exemple. On a aussi Denis d'Halicarnasse, Dion Cassius. Mais tout cela, en fait, tous ces gens-là écrivent a posteriori. Donc, c'est-à-dire qu'ils écrivaient deux siècles après sur des cultes Gentilis du 5e siècle. siècle avant Jésus-Christ.
Ouais, c'est pas ce qui s'appelle du reportage, quoi.
Non, c'est ça.
Et donc, sinon, les images. Alors, j'imagine, oui, qu'il y a des représentations iconographiques, ou des peintures, des fresques, non
pas... Très peu. J'en ai trouvé très peu. C'est surtout à propos d'un culte gentiliste. Donc, sur celui d'Hercule, on reviendra après
on
dessus. Mais en fait, c'est parce que Hercule, c'était le culte gentiliste le plus connu et le plus traité aussi par les historiens actuels. Donc, c'est pour ça que je ressors plus de choses à propos de ce culte-là. Mais les images, ouais, c'est... On verra.
On verra, d'accord, très bien. Et les inscriptions aussi, quand même, ça,
oui.
Il y en a peut-être un peu plus. Quoi.
Ah oui, alors ça, il y en a plus que les images, il y en a un peu moins que les sources littéraires, quand même. Mais en tout cas, elles m'ont permis d'identifier des choses très intéressantes. Donc j'ai su, par exemple, simplement avec les inscriptions, que la famille de Jules César, donc les Iulii, vouait un culte gentilis à une divinité, Vediovis. Donc on l'assimile à Jupiter dans certains cas. Je ne vais pas m'étendre dessus, je pourrais durer une heure. Mais simplement avec les inscriptions, j'ai su que la famille de Jules César honorait quelqu'un. Mais j'ai su aussi, par exemple, simplement avec elle, que certaines fois, l'État prenait en charge les cultes gentilis, une fois que ce culte a été finalement et passer dans la sphère publique.
Ah oui, c'était des familles très puissantes qui arrivaient à faire sortir le culte gentiliste de leur maison, c'est ça enfin...
Alors en fait, déjà de base, je pense qu'il n'y a que les familles on peut pas dire très puissantes, mais très influentes. Enfin, très influente, qui avait en charge les cultes gentilis. Et en fait, elle ne la faisait pas sortir de la sphère privée. C'est juste qu'à un moment, on va arriver à une période où l'État va passer au-delà du pouvoir des familles. L'État romain va se consolider comme quelque chose va être très fort à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et à partir de là, il va essayer de capter les cultes gentilis à son profit, en fait. C'est tout un processus politique où on va voir, en quelque sorte, la déchéance du pouvoir des grandes familles au profit de l'État.
Alors, on va revenir peut-être sur la fonction de ces cultes. À quoi ça sert, en fait, de vénérer un dieu en particulier dans sa famille ?
Alors, vénérer un dieu en particulier dans sa famille, ça a des fonctions tout à fait différentes. Donc, des fois, c'est simplement par souvenir du... Enfin, là, on rentre dans le domaine de la mémoire, en fait. Donc, certaines familles qui s'inventent des origines mythologiques vont choisir d'honorer certaines divinités en rapport à ces origines. Mais parfois, certaines autres familles vont honorer une certaine divinité, et cela va leur permettre d'asseoir leur pouvoir en quelque sorte sur la ville et leur justifier des positions politiques assez hautes au sein du pouvoir.
Parce que ça se traduit par des actes concrets de pouvoir
Alors, c'est pas que ça se traduise directement par des actes concrets de pouvoir, mais c'est quand même signe d'une certaine honorabilité de la famille, sachant que l'honneur à Rome est une valeur très importante. Donc, une famille honorable vouant un culte à une certaine divinité, donc par exemple Hercule, c'est tout de suite très, très influence. Ça influence énormément la vie politique à Rome.
Ça fait partie du décorum, quoi.
Oui, c'est ça.
Signe de richesse, en fait, parce que les familles modestes n'avaient pas de culte gentiliste. Enfin,
en tout cas, pas à ma connaissance pour le moment.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des chantiers archéologiques qui ont apporté des connaissances récentes là?
Alors, il y a eu un chantier, toujours à propos d'Hercule, parce que, bon, tel vous l'avez compris, c'est le culte le plus connu et le principal culte gentiliste.
On va le détailler, ouais, bien
c'est
sûr.
C'est ça. Ouais. Et à propos de ce culte-là, il y a eu certaines découvertes, des bases de temples, certaines images, mais quand même très tardives, qui ne sont pas non plus suffisamment révélatrices de ce que c'était le culte au début de la République.
Bon, alors on va s'attaquer justement à des exemples pour que les auditrices et les auditeurs comprennent de quoi ils retournent exactement. Il y avait une dizaine de cultes gentilistes officiels,
oui, c'est ça.
Dans la République romaine.
Ce que j'ai trouvé pour le moment.
Très bien. Et donc on en détaillait trois. Alors on va commencer donc par Hercule alors.
Oui, Hercule, le plus connu, le plus significatif. Donc, alors, le culte d'Hercule prend place à l'Ara Maxima sur le Forum Boarium à Rome. Donc, c'est le forum qui était plutôt à destinée économique à l'époque. Et son culte, en fait, remonte à une origine mythologique, c'est-à-dire qu'il fait directement référence à un des 12 travaux d'Hercule, donc celui dans lequel Hercule devait enlever les bœufs de Gérion. Et une fois que Hercule a volé les bœufs à Gérion, il s'est arrêté près du Tibre faire une sieste. Et au moment de sa sieste, il y a un géant, Cacus, fils de Vulcain, qui a volé 4 paires de bœufs pour les enfermer dans sa grotte sur l'Aventin.
Parce qu'il y en avait combien en tout, des bœufs? Il y en avait plein?
Pour moi, il y en avait 12.
Ah, d'accord. Ouais.
Et en fait, il les enfermait dans sa grotte pour les dévorer. On ne va pas faire plus compliqué que ça. Et Hercule, après sa sieste, se réveille furieux en entendant les bêtes mugir au loin. Et il alla directement vers la grotte, tua Cacus et récupéra ses bœufs. Et c'est après cet événement mythologique, en fait, qu'on dit que Hercule a fondé lui-même son propre culte d'Hercule invaincu sur la place d'où il a tué Cacus. Donc, aujourd'hui, on appelle ça le Forum Boarium. Et il a fondé lui-même son culte d'Hercule invaincu et a chargé deux familles, les Potitii et les Pinari, du culte, en fait, d'entretenir le culte au fil des années.
Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas le tout de lancer son culte. Il faut qu'il y ait des... il faut avoir des prêtres, en fait.
C'est ça, exactement.
D'accord.
Donc, en fait, concrètement, là, l'historicité de la fondation, comme elle est mythologique, il faut la remettre en contexte, se poser des questions dessus. Mais en tout cas, de ce qu'on sait, c'est que les Pinari et les Potitii ont gardé la charge de ce culte jusqu'en 312 avant Jésus-Christ.
Ah oui, quand même, longtemps. Et
oui,
alors, ça consistait en quoi, le culte d'Hercule? Qu'est-ce qu'il fallait faire?
Alors ça, je ne peux pas vous le dire. C'est le problème des sources. Je sais qu'il y a un culte, je sais qu'il a été étatisé en moins 312, mais entre-temps, je ne sais pas comment l'hommage était rendu à la divinité.
Et en général, c'était quand même quoi? Des sacrifices animaux, des choses comme ça?
Alors,
en fait,
ça peut être des sacrifices animaux, ça peut être des libations. Donc là, on est dans le sacrifice, mais autre qu'animal. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être animal, comme avec le cochon tout à l'heure. Mais là, je ne peux pas dire dans le détail de quoi s'agissait. Enfin, en tout cas, comment était rendu le culte à Hercule invaincu au tout début de la République.
Ah oui. Et ouais. Après, vous saurez plus sur...
Après, je sais qu'il a été pris en charge par les prêteurs urbains, donc des magistrats.
Donc là, et il est sorti du privé, c'est ça?
Il est sorti du privé en moins 312 par Appius Claudius, donc qui était censeur, donc la plus haute charge politique que pouvait avoir quelqu'un à Rome. Et celui-ci a voulu le sortir du domaine du privé pour l'étatiser concrètement, c'est clairement ça. Et il a donné la charge de ce culte aux prêteurs urbains et à des esclaves publics. Donc on sait qu'il y avait quelque chose, que c'était encadré par des magistrats, que les esclaves étaient là aussi pour la cérémonie, mais on ne sait pas comment. Donc voilà.
Et cette étatisation d'une religion, ça sert à quoi? Enfin, c'est pour finalement, réduire la famille qui portait le culte, c'est ça? Enfin,
oui.
C'est une attaque finalement d'étatiser une religion.
Tout à fait. Alors, et c'est pour ça que le surnom de Appius Claudius, c'est Caecus. Donc en fait, suite à cet épisode-là, Caecus veut dire aveugle. On raconte que Appius Claudius est devenu aveugle pour être puni de ce qu'il a fait à propos des religions, du culte gentiliste d'Hercule, et de l'avoir amené dans la sphère publique.
Ouais, et on ne sait pas ce qu'on reprochait à ces familles-là, enfin, si ce n'est que d'avoir été trop puissante.
Voilà, c'est ça, c'est pas un reproche en fait, c'était vraiment dans l'optique d'affaiblir le pouvoir des familles qui avaient le pouvoir entre leurs mains depuis la fondation de la République au profit de la communauté et de l'État. Voilà.
D'accord. Et alors, donc ça, c'était le culte d'Hercule, mais il y en a deux autres dont vous voulez nous parler. Il y a le Trien sacré, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, alors ça, c'est une histoire assez drôle. Enfin, quand je l'ai découverte, ça m'a beaucoup plu parce qu'elle est très originale. Donc là, il y a une seule référence dans les sources de cette histoire du Trien sacré des Servilis, c'est chez Pline l'Ancien, dans l'histoire naturelle. Et en fait, le Triens, pensez ça comme une petite monnaie de cuivre, donc une monnaie assez pauvre. Et en fait, tous les ans, la famille des Servilii honorait la monnaie. Ils la nourrissaient d'or et d'argent. Et après avoir nourri la monnaie d'autres métaux...
Il n'y avait même pas de personnage derrière, quoi.
Alors,
c'était la monnaie.
On pense que si, ils bougeaient la monnaie, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'était autour de la monnaie. Et une fois qu'elle a été nourrie...
On connaît ça, de toute façon, encore maintenant. Hein,
oui, c'est pas
de l'argent.
on y revient toujours.
C'est ça, mais oui.
Et une fois cette monnaie nourrie, elle va soit s'élargir, donc ce qui veut dire que la famille va passer une très bonne année dans l'année à venir, que tous les feux sont ouverts pour elle. Si elle rétrécit, c'est mauvais signe. Donc là, on fait attention. Peut-être qu'on ne prend pas de risque non plus, mais... Voilà, c'est vraiment très, très, très singulier comme culte gentilice. Mais en tout cas, on est sûr et certain qu'il s'agit d'un culte gentilice parce qu'en fait, aucun autre acteur extérieur vient interférer dans ce culte, ce rite.
Très étrange.
Très étrange, c'est ça.
Mais j'ai quand même un sujet d'enquête pour vous et vous allez approfondir ce sujet. Je me demande, est-ce que le plat de lentilles concerne notamment à Rome, on le sert encore au 31 décembre pour la bonne année. Est-ce que ça ne vient pas de là finalement, les lentilles pour la prospérité. Est-ce que c'est pas les triens?
J'avoue que je me suis pas posé la question.
Sujet d'enquête.
Ouais, complètement.
Et donc vous avez un troisième culte. Alors celui-là, il a disparu comment, les triens?
Alors l'histoire du trien sacré a disparu assez rapidement parce qu'en fait la famille des Servili au tout début de la République avait était très connue. Elle donnait beaucoup de magistrats à la ville de Rome, mais elle a disparu assez rapidement de la liste des familles. C'est juste un aspect démographique, en fait. À un moment, quand il n'y a plus de descendants pour la famille, elle disparaît complètement.
Ah oui, ça n'arrive pas que des familles reprennent les cultes d'autres familles?
Non, parce qu'ils sont propres à chaque famille, en fait.
Ah oui, ça c'est intéressant aussi.
C'est ça, ouais.
Mm-hmm. Parce qu'ils remontent à loin et qu'ils durent longtemps, en fait, quoi.
Oui.
D'accord. Et alors, les Lupercales, c'est connu la fête des Lupercales encore maintenant.
Oui.
Quoi. Alors racontez-nous.
Ça c'est une fête aussi très singulière, très très drôle. Enfin, ça dépend des points de vue, hein, évidemment. Mais en fait, à l'inverse de ce qu'on a pu voir ici, certaines fêtes publiques, comme la fête des Lupercalia, insèrent des éléments gentilices en fait à leur déroulé. Donc, pour faire simple, la fête des Lupercalia se déroule tous les 15 février à Rome, et c'est un rite de fécondité, en tout cas dédié au dieu Faunus. Et en fait, il se déroule dans la grotte dans laquelle la louve aurait allaité Rémus et Romulus.
Ah ouais, donc, la louve créatrice, fondatrice de Rome.
C'est ça. Et d'où peut-être l'histoire de fécondité par derrière. Après, là, j'avoue, j'ai pas creusé cet aspect de fécondité parce que ça, en tout cas, ça ne me concerne pas directement au sujet des cultes gentilices. Mais en tout cas, chaque année, le 15 février, se déroule la fête des Lupercalia.
Donc ça, c'est une fête publique.
C'est une fête publique.
D'accord.
Et elle se déroule en deux temps. Donc d'un côté, ça ne va concerner que les prêtres. Donc les prêtres, les Luperci, qui vont sacrifier des ovins. Et ils vont choisir deux personnes, deux jeunes au sein de leur corps de prêtre, qu'ils vont entacher de sang, qu'ils vont recouvrir de sang de l'ovin abattu. Puis ensuite, vont l'essuyer avec la peau du mouton recouvert de lait. Et ces gens-là vont simplement porter un petit pagne. Ils vont être dévêtus, sauf d'un petit pagne. Et c'est après ce déroulé que va se passer la fête publique. Donc, les deux jeunes gens revêtus d'un seul pagne vont courir dans tout Rome et flageller les gens qui se trouvent sur leur route, notamment les femmes, d'où l'aspect de fécondité. Mais ce qu'il faut retenir de l'aspect gentiliste dans ce culte, en fait, c'est que les prêtres, ils sont divisés en deux factions. Donc, les factions des Fabiani et des Quintili, qui rappellent des noms très connus de familles romaines qui sont présentes depuis très longtemps dans la ville, les Fabii et les Quinti. Et c'est en cela qu'en fait on va voir le caractère gentiliste de cette fête, d'autant plus que en -44, en fait, Jules César va ajouter une faction, donc il y aura une troisième faction de prêtres à la fête des Lupercalia, qu'il va nommer du nom de sa famille, la faction des Iulii.
Ah bah voilà, un exemple de culte gentiliste qui est passé à une autre famille, entre guillemets, c'est ça?
C'est juste qu'il va ajouter son nom. En fait, ça se passe juste avant son assassinat, en -44, et c'est aussi ce qui va entraîner son assassinat. C'est parce qu'en fait, à cette époque-là, il va se voir trop vite comme un roi, chose que les Romains répudient la figure du roi depuis les épisodes de la fin de la monarchie. Donc c'est ce qui va précipiter son assassinat, mais c'est ce qui va aussi prouver que des éléments gentilices vont être insérés dans des fêtes publiques.
Donc finalement trois familles pour s'occuper des Lupercales.
C'est ça.
Et c'était la divinité, c'était quoi la divinité attachée aux Lupercales?
Alors la divinité d'origine c'est Faunus, mais là c'est inscrit dans le calendrier, c'est public. Chose que finalement c'est là le caractère assez spécial de cette fête puisqu'on va Ça se déroule, c'est une fête publique dédiée à Faunus, mais de l'autre côté, on va avoir trois factions de prêtres au nom de certaines familles qui vont venir qui vont venir finalement traiter d'une fête publique. Et là, certains historiens contemporains pensent qu'en fait, il s'agit d'une preuve qu'il s'agissait d'un culte privé très ancien qui est très vite passé dans la sphère publique. Mais là, je n'ai pas de preuve pour venir, en tout cas, confirmer cette justification.
Et c'est pas la chandeleur qu'on dit qui serait un résidu des Lupercales, c'est ça, non, je crois, hein, il me semble.
Je crois,
en tout cas, c'est à peu près la même époque. et ces cultes gentilistes, donc familiaux, hein, se sont éteints progressivement, donc,
oui.
Et notamment quand l'Empire est arrivé.
Oui,
il y avait des signes de faiblesse avant, à la fin de la République. Ouais,
tout à fait. En fait, je pense que les cultes gentilistes, finalement, c'était une déchéance un petit peu... une déchéance progressive. Ils ont connu une déchéance progressive à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors déjà, ça relève de plusieurs faits qu'on a pu voir en parlant d'Hercule ou du Trienne sacré. Donc on a déjà l'impact démographique, puisque... toutes les gentes, toutes les familles ne sont pas vouées à survivre dans le temps du fait des conquêtes, tous les hommes meurent et c'est fini, quoi. Et comme avec la disparition d'une famille, le culte va forcément disparaître aussi, ça impacte largement la survivance des cultes gentilistes. Mais au-delà de ça, je voulais ajouter un point sur le phénomène de l'adoption. Donc ça, c'est très peu connu, mais au sein des familles, quand un homme va être adopté par une autre famille, puisque l'adoption, c'était un phénomène très connu de l'histoire romaine, l'adopté va oublier ses mœurs familiales, ses cultes gentilistes d'origine pour adopter les nouvelles mœurs de sa nouvelle famille. Donc ça participe aussi au final à la disparition progressive des cultes gentilistes, d'autant plus que l'adoption va être un phénomène assez répandu à la fin de la République.
Et c'est pas l'Empire qui a mis fin techniquement au culte gentiliste.
Non, non.
En fait.
Auguste n'est jamais arrivé à dire stop les cultes gentilistes.
Non. D'accord. Bon, il aurait pu, hein.
Et sinon, on l'a vu aussi avec Hercule tout à l'heure. On a le développement du pouvoir étatique, donc où l'État souhaite capter les cultes privés au profit de la collectivité. Donc ça va aussi participer à la disparition des cultes gentilistes. Mais il y a un autre élément dont on n'a pas pu aborder. Avec les trois fêtes décrites, c'est en fait la montée des individualités. Puisqu'à la charnière des 3e et des 2e siècles, à peu près au moment où les conquêtes romaines se sont accentuées, les généraux romains ont compris que ce qui faisait leur réputation et ce qui allait lancer leur carrière politique, c'était les victoires militaires. Donc la compétition politique, forcément, ça va se répercuter sur cette compétition politique. Et ce qui fait que les nobles, enfin les hommes forts, allaient plutôt favoriser le culte, un autre culte, donc le culte des allégories, c'est-à-dire qu'ils vont se revendiquer d'une divinité qui va montrer leur spécificité sur la scène politique. Donc par exemple, un général va se revendiquer de la divinité du courage, de l'honneur, de la fidélité, ce qui va montrer ses qualités d'homme fort, etc. Alors qu'ils vont... Par derrière, forcément, ils vont oublier le culte de la famille, les cultes gentilistes, et ça va aussi participer à cette disparition des cultes gentilistes.
Et oui, les traditions qui se perdent.
C'est ça, complètement.
Merci Axel Lamour. J'invite les auditrices et les auditeurs à réécouter cette passionnante émission sur notre site internet.
Merci beaucoup.